La CGPME au cœur des débats. En partenariat avec La Poste. La CGPME au cœur des débats, une émission de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, réalisée sur CFM Radio, animée par Rémi Toroella.
Mesdames, Messieurs, bonjour. La CGPME au cœur des débats, troisième émission, une émission réalisée par la CGPME et en partenariat avec La Poste. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux zones d'activité. Les paysages d'entrée de nos villes se sont transformés durant ces 20 dernières années et l'activité se concentre de plus en plus aux périphéries de nos villes. Plus simple pour se garer, plus facile pour se faire livrer, plus proche des axes routiers, les zones d'activité ont beaucoup d'avantages. Du coup, ce sont souvent les centres-villes qui en pâtissent en se vidant peu à peu de leur commerce et de leur vie. Les rues piétonnes sont-elles condamnées aux vitrines des assurances, des agences immobilières et des banques? Les zones industrielles, commerciales ou artisanales sont-elles indispensables au développement d'une ville? Comment développer ces équipements sans vampiriser les centres-villes? Comment les entreprises s'y installent-elles? Les collectivités peuvent-elles les y aider? Voilà. Avec cette petite introduction, j'ai essayé de cerner un peu tout ce qui va être dit aujourd'hui entre l'invité du mois de la CGPME qui est José Zurlot. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez, on va faire connaissance dans un instant, avec également Michel Montmaillou, vice-président de la CGPME, entrepreneur à Montauban. Bonjour.
Bonjour.
Avec bien sûr Gérard Ramon, président de la CGPME du Tarn-et-Garonne et de la région Midi-Pyrénées.
Oui, bonjour.
Et avec Xavier Reyni, chargé de communication à la CGPME du Tarn-et-Garonne.
Bonjour à tous.
Alors, l'invité ce mois-ci, c'est Patrice Alozzi, adjoint à l'économie et à l'emploi à la mairie de Montauban, vice-président de la communauté d'agglo Montauban-les-Trois-Rivières.
Bonjour. Bonjour à tous.
Et Gérard Ramon, je vous demande de suite à vous de nous expliquer pourquoi vous avez souhaité inviter Patrice Alozzi aujourd'hui.
Bah, comme nous l'avions dit lors des émissions précédentes, et que je suppose que vos auditeurs suivent fidèlement cette émission,
avec
la CGPE au cœur des débats, parce que ça fait quand même partie de leur vie, ne serait-ce que pour l'emploi et pour leurs revenus et les dépenses qu'ils peuvent faire avec les commerçants. Alors pourquoi Patrice Alozzi? C'est parce que la CGPME s'est rendu compte que ce que nous appelons la crise dans ce contexte difficile, les commerçants avaient été laissés pour compte. Je crois qu'aujourd'hui personne ne le conteste plutôt, excusez-moi. Et donc, moi, pourquoi Patrice Alozzi? Parce qu'il est responsable notamment de la communauté d'agglomération et que il faut savoir que en Tarn-et-Garonne, si l'on prend les services et si l'on prend le commerce, cela représente entre 78% de l'activité économique. Par conséquent, ça ne peut pas être laissé pour compte et c'est la raison pour laquelle nous sommes préoccupés, donc, plus particulièrement des commerçants. Les commerçants, pourquoi? Parce que, et pourquoi Patrice Alozzi? Parce que, effectivement, quand on regarde de plus près les chiffres, on s'aperçoit que 80% de la zone de chalandise, c'est quand même dans la communauté d'agglo. Voilà la raison pour laquelle on a choisi Patrice Alozzi, que l'on rencontre d'ailleurs pour un développement beaucoup plus large du département de Tarn-et-Garonne.
Alors, comme d'habitude, on va commencer par présenter un des adhérents de la CGPME. Et aujourd'hui, c'est José Zurlot de l'entreprise Mathé Matériaux. Monsieur Zurlot, une très vieille entreprise, puisque je crois qu'elle a 100 ans, votre entreprise.
Effectivement, ouais. Même plus de 100 ans, puisqu'elle a été créée en 1903 par Émile Mathé, qui était patrié de son état et qui, par obligation sanitaire maladie, a été obligé d'ouvrir un commerce de gros. Il vendait de la chaux et du ciment en plein centre de Montauban, rue Fourchue, pas très loin de vos studios. Et puis, cette entreprise s'est développée, elle a été reprise en 1930 par son fils, et en 1963 par son petit-fils. Je suis donc le quatrième de la génération, Je suis le gendre, je suis la valeur ajoutée, la pièce rapportée, et c'est elle qui a permis de développer, de continuer, donc une histoire maintenant qui s'écrit depuis plus de 100 ans. Ouais.
Et vous, votre parcours, qu'est-ce que c'est?
Oh, mon parcours, c'est un parcours de comptable. J'ai une formation de comptable à la base, mais j'ai dévié dans le commerce. Chose plus agréable que les chiffres et les bilans.
Alors, vous l'avez dit, cette entreprise Mathé Matériaux, au départ, évidemment, il y a 100 ans, c'était pas comme maintenant. Donc, elle était en ville, au cœur de ville. À quel moment votre entreprise s'est mise en périphérie de Montauban?
Elle s'est mise en périphérie de Montauban, dans la zone nord, en 1993, quand la mairie a eu le projet de Ridmi. C'est donc dans les années 93-94. Et donc, nous étions pas très loin de ce secteur. Et on nous a demandé de déménager. Et donc, nous nous sommes retrouvés à aller en zone nord, rue Voltaire, qui était à l'époque une friche industrielle. Il faut bien se rendre compte qu'en 95, en zone nord, il y avait beaucoup d'entrepôts vides et inoccupés. Le développement s'est fait à partir des années 98, dirons-nous, il y a une dizaine d'années, où il y a eu une expansion véritable, un développement considérable.
Alors, carte d'identité de votre entreprise, combien de salariés, chiffre d'affaires, présentation globale comme ça?
L'entreprise, le Génimat Maté, c'est 3 dépôts, un à Montauban, un à La Française et un à Montèche. C'est 28 personnes, enfin 28 collaborateurs, dirons-nous, pour un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros. Et nous avons plusieurs activités puisqu'on a des chauffeurs, on a des magasiniers, on a des secrétaires. Enfin bon, voilà, nous avons un panel de... Et nous avons 6 femmes pour 25 personnes. Nous avons devancé peut-être les petits problèmes de l'intégration.
6 femmes sur 25 personnes, c'est pas encore la parité.
C'est pas encore la parité, non, mais enfin, on s'en approche, on essaye.
Alors voilà, vous êtes invité ce mois-ci à poser des questions, à débattre avec Patrice Alozzi. Quelle est la première question que vous avez envie de poser à l'adjoint au développement économique de la ville de Montauban?
Alors moi, la première question comme ça qui me vient à l'idée, puisque à la CGME il y a des commerçants, c'est le centre-ville de Montauban. Quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver pour essayer de redynamiser ce centre-ville qui est quand même peut-être un des plus beaux de la région? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en œuvre, que la mairie, mais aussi les commerçants qui doivent aussi peut-être faire des efforts pour essayer de s'adapter, de l'ouverture, etc. Qu'est-ce qu'on devrait mettre en œuvre en commun, tout le monde, pour essayer de redynamiser ce centre-ville?
C'est un sujet passionnant et exaltant. Et c'est vrai que c'est un sujet également qui est prioritaire par rapport à notre équipe. Le centre-ville, c'est vrai, est un territoire qui est partagé par tout le monde aujourd'hui. Quand on habite à Saint-Martial, on est de Saint-Martial et du centre-ville. Quand on habite à Villebourbon, on est de Villebourbon et du centre-ville. C'est un territoire vitrine aussi. C'est là que les visiteurs, les touristes, les investisseurs ont une image de la ville à travers la qualité du centre-ville. Donc c'est pour toutes ces raisons que c'est devenu aujourd'hui une priorité. Ça l'était et ça l'est de plus en plus. Je crois qu'il y a quelques années, le centre-ville connaissait de graves soucis de fréquentation, de sécurité, d'éclairage, d'immeubles malfamés. Tout ça a été travaillé de manière assidue depuis 2001 maintenant, avec la mise en place d'une police municipale, avec un éclairage qui a été refait, avec une politique de préemption d'immeubles qui étaient souvent squattés dans des états compliqués et exploités par des marchands de sommeil sans aucun état d'âme. Il y a eu plusieurs dizaines d'immeubles qui ont été préemptés, qui ont été refaits, les façades refaites, remis à niveau et remis sur le marché aujourd'hui. Les problèmes de stationnement également étaient un problème très important par rapport au cœur de ville et la livraison du parking de la place des Fontaines avec 320 places a permis d'apporter des premières solutions. Même si le débat n'est pas clos. Mais sécurité, éclairage, parking sont des éléments fondamentaux pour la vitalité d'un cœur de ville. Aujourd'hui, statistiquement d'ailleurs, on dit que le centre-ville se vide. Statistiquement, c'est faux. Si on prend les données livrées chaque année par la Chambre de commerce, il y a quand même de plus en plus de commerces et de plus en plus de personnes qui travaillent en cœur de ville. Donc on a l'impression, parce qu'on fait peut-être plus attention aux commerces qui ferment qu'à ceux qui ouvrent, mais globalement, aujourd'hui, il y a plus de commerces qu'à 10 ans, et nettement plus de personnes qui y travaillent. Ceci dit, quand on a dit ça, c'est pas suffisant, il faut quand même se tourner vers l'avenir. Le centre-ville, c'est une problématique au quotidien, il y a encore des données à solutionner du point de vue de la circulation, du point de vue du stationnement. On a également à cœur d'attirer à centre-ville des enseignes en capacité de générer des flux, en capacité d'attirer du monde. Et de ce point de vue-là, l'ouverture de Mango début mai rue La Résistance est une première réponse. Il y en avait déjà eu une avec l'ouverture de Marché Plus à la Mandoune il y a quelque temps, puisque ça répondait à une attente forte des habitants du centre-ville.
Pardon, qu'est-ce que c'est Mango ?
Mango, c'est le numéro 2 actuellement sur au monde en matière de prêt-à-porter. On connaît Zara, on connaît H&M, on connaît Mango. Mango, qui est une entreprise barcelonaise, s'installe donc rue La Résistance et va contribuer à générer des flux et à attirer du monde en cœur de ville. C'est vrai qu'on a d'autres dossiers sur le feu et je vais rester relativement discret là-dessus. On travaille d'arrache-pied avec toute l'équipe municipale, avec Maxime Béraudeau, Jean-Marcel Desjean et Brigitte Barrage, bien entendu, sur ces dossiers-là. Il nous appartient aujourd'hui d'anticiper et de voir un petit peu comment va évoluer les cœurs de ville. On a des problèmes d'équilibre à respecter.
Quels sont les leviers que vous avez parlé de la préemption quels sont les autres outils que vous avez pour permettre justement à des entreprises comme ça de venir au cœur de ville?
Mais la préemption d'immeubles, la préemption de fonds de commerce, qui est quelque chose de récent. La loi du travail, c'est l'été dernier, et qu'on vient exercer là très récemment rue Marie Lafont, est une avancée importante. La mise en avant, la promotion du territoire auprès d'enseignes. Mango arrive au mois de mai, d'autres dossiers.
Comment ça se passe justement cette promotion auprès c'est dans des salons, dans des choses comme ça.
Oui, ça commence par les salons, le MAPIC notamment, où nous avons été présents, mais c'est également être présent auprès de tous les circuits de promotion commerciale. On a par exemple à ce niveau-là des possibilités avec des spécialistes qui sont à étudier les cœurs de ville. Je parle des réseaux Bérénice, du Procos, la fédération des 250 plus grosses enseignes de France, sur lesquelles on est présent et on se déplace. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation de concurrence qui est tout à fait identique à ce que l'on peut observer dans le privé et dans vos entreprises, où on se bagarre avec d'autres villes, avec d'autres collectivités, pour attirer telle ou telle enseigne ou telle entreprise en périphérie.
C'est quoi les armes? C'est de la défiscalisation, des choses comme ça, de l'aide à l'installation?
C'est le prix du foncier, c'est effectivement l'aide aussi à l'installation, à l'acquisition de foncier, à l'investissement productif. C'est également, vous savez, quand vous rencontrez un investisseur, on vous parle de fiscalité, on vous parle de prix du foncier, on vous parle de qualité de la main d'œuvre, et puis on vous parle également du territoire, de sa dynamique, des festivals, de la présence d'un golf. C'est aussi basique que ça. La qualité de vie aujourd'hui d'un territoire, c'est une donnée essentielle pour attirer l'entrepreneur, pour attirer l'investisseur, a fortiori pour attirer l'enseigne, bien sûr. Mais après, la problématique du cœur de ville, on peut la développer, mais il ne faut pas non plus tout attendre la collectivité. Je veux dire que nous, on va essayer de donner les moyens de fonctionner, de faire en sorte de solutionner des problèmes de propreté, de circulation, de stationnement, de sécurité, etc., d'attractivité. Mais il faut aussi que tous les acteurs qui sont présents dans le cœur de ville fassent en sorte que celui-ci devienne plus facile à vivre et plus attractif, plus dynamique. Je veux parler notamment du tissu des commerçants avec lesquels nous avons une discussion qui sont hebdomadaires, très nourries et très constructives. Et d'ailleurs, je salue les associations de commerçants et les personnes qui se prennent en main au niveau du commerce et du cœur de ville. Il y a des initiatives, notamment au niveau de la création de l'organisme spécialement dédié au commerce, un office du commerce qui sont en cours. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui se font jour, des gens qui ont compris qu'il fallait avancer. Et alors, c'est les horaires d'ouverture, bien sûr, les jours de fermeture hebdo, les problèmes de piétonisation, on en a parlé tout à l'heure de manière succincte, on pourra y revenir. Ouais. Mais aujourd'hui, réussir un cœur de ville, c'est une problématique qui concerne tous les acteurs et pas seulement la collectivité, même si la collectivité est déterminée à avancer sur ce dossier.
Monsieur Zurlo, moi j'avais l'impression, en préparant un peu cette émission, que justement les commerçants, ils avaient un peu l'idée d'avoir été un peu abandonnés dans tout ce qui avait été mis en place comme relance justement après la crise.
C'est vrai qu'au moment de cette crise que nous avons connue, les commerçants étaient un peu les oubliés, malheureusement, des grandes décisions qui ont été prises. Et c'est vrai que ils ont l'impression, plus que l'impression, ils ont des soucis avec les banques, ils ont des soucis avec
pour financer les stocks,
etc. Et c'est vrai que ces gens-là ont des soucis très importants. Et ils ont été complètement abandonnés.
Beaucoup sont au bord du dépôt de bilan aujourd'hui.
Voilà, les bilans clos ne sont pas très bons en 2009. Le premier trimestre 2010 non plus n'a pas été très très bon. Et c'est vrai que bon, ça c'est un souci. Et donc c'est bien aussi, mais que les acteurs de la ville soient prêts à les aider. Mais il faudra pour les aider, que les banquiers aussi les aident, que peut-être l'État soit peut-être plus vigilant aussi, puisque ça représente quand même, le commerce représente quand même une grosse partie de l'activité de notre département.
Oui, José, moi je voudrais revenir sur les problèmes financiers, et c'est vrai qu'on ne dit pas ça par hasard. Aujourd'hui, nos adhérents commerçants donc à la CGPME nous remontent l'info que leurs frais financiers ont augmenté cette dernière année considérablement. Donc on parle là pas par hasard, c'est nos adhérents commerçants qui nous font remonter l'info, et ils sont très remontés après les banquiers, puisqu'ils ont un problème à ce niveau-là sur les frais financiers qui ont augmenté largement.
Voilà. Voilà, c'était une...
Il y a un problème d'écoute aussi, quand même, parce que la discussion que nous avons eue, notamment avec le nouveau président de l'association de banques française, de l'ASF, donc qui reconnaît qu'effectivement, il faut qu'il y ait des guichets un peu à part pour les écouter, parce que je comprends très bien que les banquiers aient aussi des problèmes de personnel, des problèmes de réduction de coûts, il ne faut pas toujours non plus leur taper dessus, et que tout ça, il est évident, quand on fait la loi des 80-20, on préfère s'occuper, utiliser son personnel à s'occuper des sociétés de votre clientèle qui représentent 80% de vos rentrées, plutôt que de s'occuper des 80% qui représentent que 20% des rentrées. Donc je crois que là aussi, il faut qu'il fasse un effort pour qu'il y ait plus d'écoute, même si c'est un commerçant qui vient là. Et moi, c'est mon souci, c'est qu'il ne faut pas se laisser se développer. Ce que nous constatons, c'est que les commerçants aujourd'hui se sentent qu'ils sont seuls, et que ce soit à Cassel-Sarrazin, que ce soit à Moissac, que ce soit à Beaumont-de-Lomagne, ils se regroupent dans des espèces de réunions informelles, où chacun se dit des choses, mais ça ne sert à rien, parce qu'ils se montent la tête entre eux. Ce qu'il faut, c'est que la CGPME, le rôle de la CGPME, qui est interprofessionnelle, c'est de les fédérer, non pas pour les manipuler, mais pour qu'il y ait la possibilité, effectivement, de les faire entendre auprès des pouvoirs publics, et notamment du représentant de l'État, qui est le préfet.
Alors, on va laisser Patrice Alesi, qui est, on va le rappeler, directeur adjoint au développement économique, mais qui est aussi banquier, non, il me semble. Hein, donc vous pouvez répondre sur les deux casquettes.
Ouais, pour le coup. Moi je sais bien que il fait très beau aujourd'hui, mais enfin, bon, une seule casquette suffira. je partage le constat. Il y a des inquiétudes sur le commerce, ça oui effectivement. Par contre, je peux pas laisser dire que rien n'a été fait, parce que c'est une analyse que je ne partage absolument pas. D'abord, on a parlé de ce qui a été fait vis-à-vis des banques. Vous aviez en octobre 2008 un problème de crise financière, de crise mondiale, et un problème de rupture de confiance entre les banques. Il n'y avait plus aucun échange entre les banques. Le système était grippé, ne fonctionnait plus, et nous étions au bord d'une catastrophe, comme les États-Unis l'ont connu avec le système bancaire. L'État a fait des prêts, pas les prêts gratuits, puisque l'État a emprunté et a reprêté derrière à 8% au niveau des banques, pour relancer la confiance. Ce système a permis, par la relance de l'offre, d'agir et d'être tout à fait efficace. Il n'y a qu'à comparer avec les données statistiques de nos voisins européens pour se rendre compte que ce qui a été mis en place à ce moment-là était une bonne décision. Le plan de relance, et le plan de relance Interne-Garonne, nous en savons quelque chose, puisque Brigitte Barrège était parlementaire en mission, chargée du plan de relance pour 4 régions de France. Le plan de relance, 35 milliards d'euros au plan national. 35 milliards d'euros au plan national. 98 millions d'euros en Tarn-et-Garonne en 2009. Chiffre rendu public par Monsieur le Préfet la semaine dernière. 98 millions, c'est au bénéfice des entreprises, des sous-traitants et bien évidemment du commerce. Quand on voit 1927 primes à la casse octroyées en Tarn-et-Garonne en 2009. Alors évidemment, ça a relancé les distributeurs automobiles. Ça a relancé également les sous-traitants. Nous en avons une demi-douzaine en Tarn-et-Garonne, de sous-traitants automobiles, y compris sur le territoire de l'agglomération de Montauban, d'ailleurs. Mais je veux dire, les personnes qui travaillent, qui ont vu leur emploi préservé par ce biais-là, et on estime que 250 000 emplois productifs commerçants ont été préservés au niveau national. Ben, je veux dire, c'est le tissu économique et le commerce de base qui en profitent. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait par rapport au commerce, c'est pas vrai. Alors qu'il y a des difficultés. Vous savez, il y a de plus en plus de commerce, on l'a dit tout à l'heure, au niveau du territoire. Et la zone de chalandise s'agrandit. La zone de chalandise aujourd'hui sur le territoire va au-delà de Cahors, au-delà de Villefranche, de Rouergue, flirte avec la banlieue nord de Toulouse et s'élargit de plus en plus. Mais il y a aussi de plus en plus de commerçants. Et le commerce doit évoluer en permanence. Le commerce évolue en permanence. Alors, je sais bien qu'il y a des commerces qui ont des difficultés, mais il y a également des commerces qui fonctionnent très bien. Mmh. Il y a des remises en question peut-être parfois à avoir, mais surtout, ne disons pas que rien n'a été fait pour le commerce. Je pense que ce n'est pas vrai.
rien n'a été fait. Attends, il ne faut pas exagérer. Quand on dit, justement, il faut toujours forcer le trait pour pouvoir se faire entendre. Par conséquent, on n'a pas dit que rien n'a été fait. On dit qu'ils ont été laissés pour compte et c'est pour compte. Ça ne veut pas dire pourtant qu'on n'ait pas fait et qu'il n'y a pas eu des actions en leur faveur. Disons simplement, quand vous dites, Patrice Allozy, que dans les 34 milliards, moins que 34 milliards, vous avez 35. On n'est pas un milliard près à ce niveau-là, n'est-ce pas? Et 98 millions ou 99, on ne va pas mourir. De toute manière, on ne verra pas un sou à ce qui concerne les PME. PME, pourquoi? Vous avez parlé notamment de la prime à la casse, on est d'accord. Mais la prime à la casse, nos commerçants ou nos PME ne l'ont eu que par ricochet. Par ricochet. C'est-à-dire c'est que cette prime à la casse a relancé effectivement l'automobile et on a donné quelques miettes aux PME-PMI. Donc ce ne sont pas des aides directes aux PME-PMI. Et on est bien d'accord, j'ai été un des premiers à dire que des mesures qui avaient été prises par le gouvernement étaient tout à fait appropriées, je l'ai dit. Mais moi, aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour parler de ceux qui, à notre avis, n'en profitent pas. Alors, l'objet de la discussion aujourd'hui, mais il faut quand même le dire. Quand vous parlez du grand emprunt, aujourd'hui. Mais moi, j'ai eu... j'en ai discuté avec M. le préfet de région et avec M. le préfet de Montauban. Et là-dessus, c'est vrai que nous ne sommes pas tout à fait en harmonie. Parce que s'il y a 34 millions d'euros, pour Midi-Pyrénées, si ma mémoire est bonne, il y a 11 milliards ou 12 milliards d'euros. Et puis, quand on regarde les détails, on s'aperçoit que pour les PME-PMI, peut-être que les PME-PMI pourront bénéficier, être éligibles à 1,5 milliard à travers OSEO. Même pas en direct. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout, aujourd'hui, en France, c'est toujours été comme ça. C'est tout ou rien. Aujourd'hui, le grand leitmotiv, c'est l'innovation. Alors voilà. On ne va se préoccuper que des entreprises innovantes. Le problème, c'est que personne n'est foutu de nous dire quelles sont les sociétés qui peuvent être éligibles en termes d'innovation. Voilà. Donc je crois qu'il faudra aussi travailler là-dessus, savoir qui est innovant. Est-ce qu'innovant, c'est trouver un produit qui n'existe pas et qui existera peut-être dans 10 ou 15 ans ou dans 10 ans? Et est-ce que c'est les PME-PMI de 20 salariés ont la capacité de faire de la recherche fondamentale ou de la recherche à ce niveau-là? Non. L'innovation, il faudra nous dire, par exemple, que innover, c'est faire en sorte que nos PME-PMI qui existent aujourd'hui puissent continuer à exister, à se développer pour atteindre le niveau des sociétés allemandes, pour ensuite pouvoir faire de l'exportation. Et à ce moment-là, peut-être que l'innovation se résumera dans un premier temps à faire évoluer le produit, à l'adapter, le produit, mais il faudra en bénéficier. Il en sera de même pour l'investissement. C'est bon, je comprends. Alors, bien que je ne suis pas trop débordé.
Voilà, donc je reviens au sujet, si vous le voulez bien, qui est un peu autour du commerce à la périphérie de Montauban et également au centre-ville. Et puis, on va prendre l'angle de la nouvelle loi de modernisation de l'économie. Et de cette fameuse taxe locale sur la publicité extérieure qui pourrait être finalement une façon de remplacer un peu cette taxe qui va manquer, la taxe professionnelle. Merci Gérard Ramon. Qu'est-ce qu'il va en être?
Qui va compenser.
Il n'y a plus de taxe professionnelle, il faut bien avoir des rentrées d'argent quelque part.
Non, ça n'a absolument rien à voir. Puisque la taxe professionnelle, la part pour l'investissement qui est supprimée est remplacée par la CFE et la CET, la contribution économique territoriale. Donc, de ce point de vue-là, ça n'a strictement rien à voir. La taxe locale sur la publicité extérieure, qui est un dispositif national qui existe, qui est exigible vis-à-vis des territoires, est une taxe sur les enseignes. Les enseignes, du point de vue de la signalétique, si vous voulez. Et vise, au plan national, à réduire la portée des enseignes. On est toujours dans la stratégie de préservation de l'environnement, de ce point de vue-là. Et Montauban récemment a fait parler un petit peu d'elle de ce point de vue-là. La taxe locale publicité extérieure est un dispositif national, je l'ai dit, et nous sommes en train de nous interroger sur les modalités d'application. Je peux déjà vous dire que sous l'égide de Brigitte Barège, il a été décidé d'exonérer les enseignes de moins de 7 mètres carrés. Ce qui va vous satisfaire, je pense, puisque la quasi-totalité des commerces et artisans vont se retrouver exonérés, à moins d'avoir des commerces qui ont des panneaux 4x3 au-dessus de la boutique, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, ou quasiment pas, il va y avoir une exonération totale. Il y avait deux dispositifs de taxes qui existaient, qui étaient la TSU et la TSA, et la TLPE vient aujourd'hui, la taxe locale publicité sur les enseignes extérieures, vient à remplacement de cette donnée-là. Mais ça n'a strictement rien à voir avec la suppression de la part productive et d'investissement sur la taxe professionnelle, qui était largement attendue par les entreprises. Et là aussi, les PME et PMI seront très satisfaites. Gérard Ramon, je pense que vous n'avez, de ce point de vue-là, pas de remontrances à faire sur la suppression de l'ATP.
Pourquoi voulez-vous que j'ai toujours des remontrances à faire? J'ai pas toujours des remontrances à faire. Moi, je suis là pour faire des calculs et faire en sorte que le char aille bien dans le même sens. Ce qu'a dit notre ami, en fait, il a pas dit que... Moi, j'ai bien compris la manière dont il vous a fait la remarque. Effectivement, il n'y a pas de relation de cause à effet entre la taxe professionnelle qui n'est pas supprimée et qui est remplacée par autre chose et le fait qu'aujourd'hui, on mette une taxe supplémentaire. Parce qu'il va bien falloir compenser la perte qu'il y a pour les collectivités locales. Première remarque. Deuxième remarque. Enfin, moi, ce que je comprends pas, quand même. Et pourquoi faut-il taxer les enseignes? Pourquoi? Puisque vous me dites que c'est uniquement pour l'esthétique, pour l'environnement. Il suffit simplement de faire une loi en disant, voilà, monsieur, vous n'avez pas le droit de mettre un panneau là. Il ne met pas son panneau là. Moi, il y en a encore, il n'a rien à payer, mais il ne met pas le panneau là. Pourquoi une taxe supplémentaire?
Alors d'abord, sur la taxe professionnelle, que je sache, 9 milliards de moins de recettes au niveau national sur les taxes professionnelles, c'est 9 milliards qui ne sont plus ponctionnés sur le budget des entreprises. Donc si on appelle pas ça un allègement de charges, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ensuite, sur la taxe locale sur la publicité extérieure, il y a déjà un règlement local de publicité. On ne fait pas ce qu'on veut. On est limité en nombre, on est limité en surface. Il y a déjà des textes qui s'appliquent là-dessus. Maintenant, malgré l'application des textes, la taxe vient aujourd'hui à compenser, du point de vue des investissements environnementaux qu'il faudra immanquablement réaliser, un certain manque à gagner au niveau de ce que l'on percevait précédemment sur la TSE et la TSA. C'est aussi simple que ça.
José Zurlo.
Non, mais c'est bien, c'est rassurant de savoir qu'apparemment, donc, vous allez exonérer les petits commerces de cette taxe-là.
Mais c'est la volonté des députés maires, les enseignes jusqu'à 7 mètres carrés seront exonérées, effectivement.
Mais c'est très bien, on peut donc remercier notre député maire qui a eu une bonne initiative et qui va être, je pense, entendu et répété et retenu par nos commerçants.
Michel Montmaillot.
C'est propre à la commune de Montauban. Vous dites exonérer en dessous de 7 mètres carrés, mais il me semble qu'au niveau national, l'exonération était sur 12 mètres carrés.
Non, pas du tout. Pas du tout. Chaque commune valide ou invalide le dispositif national et fait une application locale avec des barèmes qui sont uniquement du point de vue. Alors là, c'est de la commune, c'est pas le territoire de la communauté d'agglomération. Oui. C'est la commune et c'est les maires qui sont aujourd'hui à l'initiative.
Le tout est, je crois qu'il faudrait éclaircir tout ça parce que franchement, pour les commerçants et les artisans, c'est pas très clair au niveau de cette taxe.
Ça va coûter combien? Ça va coûter combien?
Ça va dépendre des surfaces. Si vous avez sur votre entrepôt en périphérie 12 panneaux 4x3, ben ça va coûter effectivement un certain prix. Et puis si vous n'avez pas de grande enseigne ou si vous avez des enseignes discrètes, ça coûtera nettement moins. Aujourd'hui, on est en train de négocier, de calculer. Mais l'idée, encore une fois, c'est pas de rendre les gens mécontents. C'est pas de tondre la laine sur le dos des entreprises, bien évidemment. C'est d'essayer d'avoir un équilibre là aussi.
Non, mais il n'est pas question de... Non, mais attendez, non, on n'est pas là. On a quand même dit ça. Ne mettez pas dans les propos de la CGPME des mots comme tondre. On a quand même parlé de ça. Nous sommes parfaitement solidaires. De toute manière, vous le savez très bien. Aujourd'hui, si la France, les PME, PMI sont le tissu économique et social de la France. De toute manière, aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Et par conséquent, nous ne sommes pas des révolutionnaires bien au-delà. Ce que nous souhaitons simplement, c'est qu'on nous donne les moyens d'abord de vivre, de nous développer dans un milieu de crise difficile, dans un milieu économique international difficile.
Bon, j'aurais pas une réponse quand même sur le...
Oui, combien ça coûte. Non, mais il faut quand même répondre sur les 9 milliards. Attendez, non, mais attendez, c'est pas possible.
On repart.
Non, on repart pas. On continue. Il a raison, Patrice, mais attendez, moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux représentants de l'État en département, en région, c'est qu'ils font de la macroéconomie. 9 milliards sur le territoire national, 9 milliards. Mais non, ça choque. On fait faire des économies. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord, la taxe professionnelle, est-ce que la taxe foncière, est-ce que la taxe professionnelle a été supprimée? Non, oui. Mais elle n'a pas été supprimée, elle a été remplacée par autre chose. Donc, ce qui est important, c'est le différentiel. Mais le différentiel dont parle Patrice, il dit, bon, tout c'est 9 milliards. Mais 9 milliards sur 1 750 000 entreprises. Et la difficulté qu'il y a, si on n'explique pas aux gens, non pas pour faire du mauvais esprit. Moi, dans mon entreprise, quand ils ont appris ça à la télé, ils sont venus me trouver tous à mon bureau, et ils m'ont dit, monsieur Ramon, combien il y a pour nous? Vous vous rendez pas compte, vous payez 150 000 euros par an de taxes professionnelles, nous sommes 20 salariés, 150, on divise par deux, vous m'en donnez 75 000. J'ai attendu les enfants, attendez, on va prendre la taxe professionnelle que nous payons avant, elle n'existe plus, mais on pourra prendre les deux autres taxes supplémentaires, et c'est le différentiel que je peux distribuer, et que je peux distribuer à mes salariés, je crois que c'est 5,95 euros par mois. Voilà. Donc, mais de toute manière, il ne faut pas toujours critiquer, c'est un allègement de charges pour le permettre d'être compétitif, et nous sommes d'accord.
Ce n'est pas qu'un allègement de charges, ça va au-delà. C'est que c'est une taxe, c'est un impôt inique, certains ont dit imbécile, qui s'appliquait sur l'investissement productif. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises, notamment dans le numérique, qui se déploient, qui se développent, et qui avaient une taxe professionnelle qui était relativement mineure. Donc, il y avait aussi une question de justice dans le fonctionnement et d'adaptabilité par rapport à l'évolution du tissu des entreprises. Donc, il était injuste de pénaliser l'investissement productif au niveau des entreprises. Donc, au global, c'est un allègement de charges, mais c'est aussi quelque part un resserrement et un impôt qui sera plus juste dans sa nouvelle qualification.
Bon, alors, si vous vous installez sur Montauban pour un commerce, que vous soyez en centre-ville ou en périphérie des villes, l'enseigne à moins de 7 mètres carrés, c'est important. Comme ça, vous êtes sûr
de pas payer
cette taxe. Et au-delà, 10 mètres carrés, bon, c'est combien que vous paierez ?
Pas cher.
On saura pas.
Pas moins cher que gratuit, mais pas cher.
Alors, ça c'est un chiffre.
Bon, eh ben allez, j'insiste pas. Toujours dans la loi de modernisation de l'économie a été mis en place le statut de l'auto-entrepreneur. Il n'y a pas une journée où on n'entend pas parler de cet auto-entrepreneur. Quand on croise un auto-entrepreneur, il vient de se monter, il est content, il est heureux parce qu'il a trouvé une solution. Quand on croise un artisan qui nous parle des auto-entrepreneurs, il fustige ce statut qui est pour lui une sorte de concurrence déloyale. Si j'ai bien compris, c'est
oui,
ça.
Oui,
hein,
une concurrence déloyale, oui, tout à fait.
Monsieur Montmaillot, vous qui êtes artisan.
Oui, en tant qu'artisan, je peux en parler. Et c'est vrai que bon, c'est flagrant, quoi. Ces gens-là ne sont pas assujettis à la TVA. Ils peuvent faire, je crois, jusqu'à
32 000 euros
en service et 80 000 euros en commerce. Donc, avec à peu près 20% de charges. Donc là, c'est vraiment de la concurrence déloyale. Mettez-vous à la place d'un petit artisan qui, le gars travaille tout seul, il va faire environ 80 000 euros de chiffre d'affaires. Lui, il va être assujetti à la TVA et son petit copain à côté qui s'installe en auto-entrepreneur ne va pas l'être. C'est vraiment de la concurrence déloyale. Alors, moi, je voudrais rajouter que ça part d'un bon sentiment. Je trouve que les Français, mais ça n'engage que moi, ne sont pas assez entreprenants, donc ça part de bons sentiments. Mais je trouve qu'il faudrait revoir les règles. Revoir les règles, surtout au niveau de la TVA, puisque là, il y a un gros souci.
Patrice Alozzi.
La philosophie originelle par rapport à la création de ce statut, c'était quelque part d'éradiquer aussi l'économie souterraine. Vous savez que des chiffres qui circulent en la matière sont édifiants. On parle de plus d'un million de personnes qui travaillent dans l'économie souterraine, notamment dans le bâtiment, la restauration, l'agriculture. Et le fait de proposer un statut où en 30 minutes et par Internet, on peut recevoir un numéro d'adhésion. Le fait de faciliter la déclaration de l'économie souterraine, sans exiger de qualification particulière, sans exiger de paperasse et de difficultés comptables administratives avec les déclarations de TVA, permettrait de aujourd'hui faire sortir de l'économie souterraine des dizaines de milliers d'entrepreneurs. Aujourd'hui, la volonté, elle est là. Elle a affirmé, Christine Lagarde l'a clairement annoncé, et le nombre d'entrepreneurs qui sont déclarés, qui seront des futurs entrepreneurs déclarés, qui au bout d'un certain temps vont se transformer en URL, en SARL, qui pour certains et pour beaucoup, je le sais, adhéreront à la CGPME, n'est-ce pas Gérard ? aujourd'hui, ça peut poser des inquiétudes, mais demain, je veux dire que quelque part, ça va rassurer tout le monde. Il n'y a pas de concurrence plus déloyale que l'entrepreneur non déclaré. Et vous savez que ça existe à chaque coin de rue et dans chaque ville de Montauban. Et vous acquiescez, je sais que c'est une
donnée
qui est importante
et
fondamentale. Ouais. Du point de vue de la TVA, il y a aussi, ça n'est pas la nature de l'activité, il y a aussi des entreprises qui ont intérêt à récupérer la TVA. Ça dépend de votre système d'exploitation. Il y a des entreprises qui ont intérêt, d'autres qui n'ont pas intérêt. Donc dire que systématiquement, à cause de l'absence de déclaration de TVA, de l'exonération de TVA, c'est un avantage concurrentiel déloyal, pas obligatoirement, ça dépend de la nature de l'activité. Pour le reste, notamment du point de vue des qualifications, vous savez que c'est souvent mis en exergue d'ailleurs par notamment les présidents de chambre des métiers, cette absence de qualification. Mais c'est quelque chose que l'on a déjà dans le tissu actuel. Si les personnes prennent un auto-entrepreneur spécialisé dans la ferronnerie pour réaliser une pâtisserie, effectivement ça marchera pas. Effectivement ça marchera pas. Mais vous savez, parfois vous attribuez un marché à une entreprise X qui va derrière la sous-traiter à une entreprise Y, et à l'arrivée vous allez avoir une entreprise W avec des langages employés que vous ne comprenez pas. Donc du point de vue de la qualification, il appartient à tout le monde de faire attention, effectivement, mais le statut d'auto-entrepreneur et le succès qu'il rencontre sur le terrain même des jeunes retraités aujourd'hui qui s'installent auto-entrepreneurs et qui vont, en cotisant bon an mal an, en essayant de réaliser un petit peu de chiffre d'affaires, permettra d'assainir l'économie. On était aujourd'hui sur une pente descendante vertigineuse, dangereuse, avec une explosion de l'économie souterraine. Il n'était pas possible d'aller au-delà, il fallait revenir en arrière.
Michel Montmaillou.
Oui, vous parlez des qualifications. Alors moi, je trouve quand même que c'est très important parce que ces gens-là, bon, sur 3 ans, ils vont pouvoir faire des bêtises. C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple de mon métier. Je suis plaquiste, seconde œuvre du bâtiment. Ces gars-là vont s'installer à leur compte. Ils connaissent pas le métier. Quand on va avoir des sinistres, ces gens-là ne sont en plus, je crois, pas assurés. Ils n'ont pas une obligation d'assurance décennale. Donc, qui va payer pour ces sinistres?
Alors,
moi, je connais la réponse des gens. Ceux qui vont payer, c'est les gens qui payent une assurance décennale. Donc, c'est notre prime qui va payer pour eux. Voilà.
Sauf que jusqu'à présent, vous avez déjà les mêmes problèmes. Vous pouviez avoir des chantiers de construction, notamment confiés à l'entreprise, et vous rendez compte que parce que la demande était explosée sur des périodes considérées, l'entreprise avait se retourné vers les sous-traitants. Et est-ce que vous pouviez être sûr et certain qu'aujourd'hui, les sous-traitants qui agissaient avaient les qualifications nécessaires?
Bien sûr.
Bien sûr que non.
Si. On est obligé, quand on fait travailler des sous-traitants, moi c'est mon cas, j'emploie des sous-traitants et je leur demande leur qualification.
C'est votre cas personnellement,
leur
mais vous savez que c'est pas systématique.
C'est dommage.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs sur la communauté d'Aglo, Montauban, les Trois-Rivières, vous avez des chiffres là-dessus?
4200 entreprises sur le territoire de l'Aglo et 35 000 emplois effectivement, ouais. C'est pas neutre. Ouais.
Non, mais d'ailleurs, ce qu'il faut dire, on ne peut pas en vouloir à ces personnes-là qui ont envie de s'en sortir et qui gagnent de l'argent. La loi, c'est la loi, ils respectent la loi, ils ont droit. Donc on ne peut pas leur en vouloir à eux. C'est pas ce qu'on veut dire. Maintenant, je dis qu'il faut attirer attention aussi de ceux qui vont être leurs clients. Parce que d'abord, au point de vue de la compétitivité, ce que vous avez oublié de dire, c'est qu'ils ne payent pas les charges sociales. C'est la charge sociale, il faut savoir ce que ça représente. Pour un patron, c'est 47% des charges sociales patronales et pour le salarié, 22%. Donc ça, c'est faut le dire. Donc c'est, moi, je ne parle pas de concurrence loyale. Je dis qu'ils bénéficient d'un système particulier. Maintenant, on n'a pas appuyé suffisamment sur le problème de la sécurité. Parce qu'il faut savoir qu'un artisan, lui, lorsqu'il va, on va prendre un plombier, il va acheter des tuyaux, il va acheter des robinets, il va acheter des baignoires. C'est lui qui va acheter le matériel, en règle générale, chez le distributeur ou chez le fabricant et qui va le revendre. Effectivement, il prend une marge. C'est normal. C'est lui qui fait l'avance d'argent et qui prend le risque de ne pas être payé par les clients. Alors, il faut savoir qu'un système entrepreneur, c'est le client qui va acheter son propre matos. Moyennant quoi, il n'aura pas de garantie après. Donc, il faut expliquer ça. Et puis, le problème de la sécurité. Donc, je crois que c'est pas, je dis ça existe. Un, effectivement, c'est certainement l'intérêt pour l'économie souterraine. Deux, moi, je considère que vous devez pouvoir trouver d'autres systèmes plutôt que d'aller à l'encontre de ce que l'on dit. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui en France? On dit en France, la France n'est pas suffisamment armée avec les PME, PMI, qui sont suffisamment grosses, suffisamment importantes. Et dans le même temps, on nous crée une économie qui est encore pire, plutôt que de faire en sorte que les PME, PMI qui sont là grossissent, donner cet argent, donner ces aides à ces sociétés pour qu'elles grossissent, c'est que le problème de l'envergure, qu'elles aient des capitaux propres plus importants, de la trésorerie pour se développer. Plutôt que de faire ça, on crée encore des micro-nanostructures. Je sens qu'il y a une certaine incohérence là-dedans. Bon,
c'est deux problèmes différents, Monsieur Ramon. C'est deux problèmes différents. L'économie souterraine et la création d'auto-entrepreneurs, c'est un problème différent de la taille, effectivement, des PME, où par rapport à l'Allemagne, notamment, on est effectivement très en dessous et on souffre de compétitivité. Louis Gallois s'exprimait encore très récemment là-dessus et sur la taille des sous-traitants. Et c'est un problème qui est effectivement très important en France. Mais du point de vue de l'auto-entrepreneur, on est aussi limité par les seuils, vous le savez. Sur 2010, c'est 88 000 euros, je crois, par rapport au commerce et 34 000 euros sur les services. Donc, on est quand même dans les toutes petites tailles sur vraiment le service adapté, personnalisé. Ça n'a rien à voir avec la logique d'entreprise que vous rencontrez tous les jours.
Je crois qu'il faut pas, on peut pas quand même tirer à boulet rouge sur un dispositif visant à encourager les gens à créer une entreprise et à se mettre au travail et parfois à se mettre dans la légalité par rapport à une situation antérieure. Maintenant, fort du succès qu'a connu ce statut d'auto-entrepreneur, moi je crois qu'il faudrait plutôt se poser la question de savoir si on ne pourrait pas calquer cette fiscalité réduite que l'on a mise en place pour les auto-entrepreneurs, de pouvoir en faire disposer les artisans ou les entreprises inscrites en bonne et due forme sous forme de artisan, SARL, URL ou autre statut. C'est là la vraie question. On sait que la grosse problématique du tissu économique français, c'est le coût du travail, le poids des charges.
Ça veut dire, si on paye moins de charges, ça veut dire qu'on a moins de droits ensuite. Moins de droits à la retraite, moins de droits à l'assurance, moins de droits à tout ça.
Je m'adresse à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qu'ils se renseignent sur, un, ce qu'ils vont toucher s'ils sont malades, et deux, ce qu'ils auront le jour où ils auront la retraite. C'est, là, on en parle peu, mais en fait, ça va, entre peanuts et ce qu'ils vont toucher, l'écart sera pas grand.
Mais c'est un statut de court terme, c'est un statut provisoire qui est destiné à évoluer et à rentrer dans le rang, si je puis dire. De ce point de vue-là, effectivement, c'est toujours l'effet déclaratif pour que des personnes sortent de l'économie souterraine. C'est la volonté unique. Après, je pense qu'il faut pas donner à ce statut plus de poids qu'il n'en a, ou plus de relief qu'il ne peut prétendre. Mais bien entendu, ça a été présenté comme ça. Et ça sera toujours ça.
Oui, alors, monsieur Lozi, ok. Moi, je suis entièrement d'accord. De toute façon, la loi de modernisation de l'économie, l'auto-entrepreneur, moi, je trouve que ça va, c'est sur la bonne voie. C'est quelque chose de positif. Maintenant, moi, je pense qu'il faut revoir les règles. Je crois que c'est sur 3 ans. Et vous dites, ça a peu d'importance sur l'économie. Si, moi, je trouve que ça a beaucoup d'importance. Je vous disais tout à l'heure, c'est 80 300 euros. En fait, c'est 80 300 euros pour une activité d'achat et de revente. Aujourd'hui, un artisan déclaré, qui paye une décennale, qui paye des assurances, qui paye des charges sociales, ce gars-là, il fait pas plus de 80 000 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, non. Je crois que l'auto-entrepreneur, c'est positif. Pour moi, il me semble que c'est positif. Il faut revoir les règles. Je pense qu'il faut revoir les règles par rapport aux artisans qui sont là et qui, eux, payent leurs charges sociales, leur assurance, leur qualification.
De ce point de vue-là aussi, aujourd'hui, les emplois qui sont faiblement rémunérés supportent quand même assez peu de charges. Aujourd'hui, un emploi qui est payé au minimum de la convention collective supporte assez peu de charges. Il y a là aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits. Vous avez des emplois aidés également au niveau de l'État qui existent. Donc il faut quand même considérer que ça n'a pas été uniquement du point de vue de l'économie souterraine, mais du point de vue de l'artisanat et de l'entreprise. C'est comme on évoquait tout à l'heure les problèmes de fonds propres et de taille des PME. J'ai rarement évoqué ce problème qui est crucial. Il y a aussi, et c'est en train de monter en puissance, la possibilité notamment au niveau ISF de soustraire à l'impôt tous les apports à capitaux de fonds propres au niveau des PME. Ça, c'est quand même pas négligeable non plus. Ça permet aussi d'augmenter les hauts de bilan et d'avoir des entreprises qui sont aujourd'hui avec des possibilités, pour peu que l'actionnariat évolue, en possibilité d'accéder à d'autres marchés. Ça, c'est fondamental aussi.
Le sujet n'est pas là, mais attends, là, ça mérite du débat, Patrice. Ça mérite du débat. Parce que ce que
Rapidement, Gérard.
Ce que je peux dire, ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a cette possibilité-là, mais le problème est le suivant. C'est quand on regarde les capitaux des PME-PMI, notamment le capital, n'est-ce pas, on s'aperçoit que dans Midi-Pyrénées, le capital, ça va entre 30 000 euros et à la moitié de 250 000 euros. On parle des sociétés de moins de 20 salariés, d'accord. À ce moment-là, on a besoin d'argent, on a besoin de fonds, et vous allez avoir un investisseur, enfin pas un investisseur, vous allez avoir un citoyen qui ne veut pas payer l'ISF, et puis qui veut modérer sur l'ISF, qui va mettre l'argent dans votre capital. Le problème, c'est de savoir s'il le met dans le capital, le patron propriétaire qui connaît tout, il n'est plus pour le patron. Puisque voilà. Donc il faut savoir dans quelles conditions il rentre, comment il rentre, comment il sort, etc. Par conséquent, ce sont des idées qui sont lancées comme ça en pâture, mais il faudrait les peaufiner pour qu'on sache où c'est qu'on va et comment on peut l'utiliser sans pour autant perdre la mainmise sur les sociétés des PME-PMI dont les patrons sont les créateurs.
Il n'en est pas question, et c'était déjà expérimenté avec succès outre-Rhin. C'est quelque chose qui a bien fonctionné, effectivement. Mais on est sur des tailles d'entreprise un petit peu supérieures, on est au-delà de 20 salariés.
Alors on va changer de sujet, je redonne la parole à José Zurlot, qui est donc notre entrepreneur de la CGPME du jour, hein, et qui a en charge aussi de représenter bien son secteur, qui est le commerce, et secteur qui est un petit peu, qui a quelques craintes sur quant à l'arrivée des moyennes surfaces sur l'agglomération de Montauban.
C'est vrai que on voit pas que sur Montauban arriver avec cette nouvelle LME. Des surfaces qui peuvent ouvrir jusqu'à 1000 m². Et donc on s'aperçoit que les grandes enseignes de la distribution alimentaire, elles sont en train de cannibaliser tous les secteurs géographiques qui peuvent prendre dans les petits villages, dans les moyennes villes, mais aussi à Montauban. Donc, il faut, je pense, structurer ça, parce que, alors, permettre tout et tout, c'est pas très bon. On va voir arriver 1000 enseignes à 1000 mètres carrés, quoi. Je veux dire, c'est affreux de s'apercevoir les bricots dépôts et autres qui vont arriver dans nos petits villages. Ça me fait bien plaisir, mais j'ai bien peur que...
Vous savez, les enseignes ne sont pas philanthropes. Il y a des zones de chalandise, généralement, et s'adaptent aux zones de chalandise. Et depuis quelques années, vous parlez de l'évolution de la ville maintenant, depuis 10 ans, j'ai pas vu beaucoup d'enseignes fermées, ni le commerce au cœur de ville. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que notre stratégie est basée sur une donnée essentielle, l'équilibre. L'équilibre. Montauban est à une demi-heure de Toulouse. Il y a 10 ans, 15 ans, les Montalbanais partaient tous les samedis en chœur faire les courses à Toulouse. Ouais. Aujourd'hui, c'est nettement moins le cas, c'est quasiment plus le cas. À part les achats culturels qui peuvent se faire en plus via le net, c'est quasiment plus le cas. L'évasion commerciale a été éradiquée. Donc vous avez un premier problème, c'est l'équilibre entre la zone de chalandise de Montauban et la zone de chalandise de Toulouse et l'offre commerciale sur Toulouse et sur Montauban. Ensuite, on a un deuxième problème, deuxième niveau, c'est l'équilibre entre les zones commerciales. Nous avons une zone commerciale sur Alba Sud, une zone commerciale sur Sapiac et une zone commerciale sur deux niveaux, au nord, au Saône, Futuropole, pardon, Parc au Saône, etc., au Champ. Il y a un problème d'équilibre entre les zones aussi. Sachant, vous savez que la plus petite des zones de Montauban, la plus petite des zones de Montauban, représente quand même 4 fois plus d'emplois que Molex. Molex qui est un problème national, grave, crucial, mais nos zones commerciales génèrent des milliers d'emplois aussi. Donc on a un problème d'équilibre entre les zones commerciales. Et vous savez, c'est un pilotage très fin qui se fait. Chaque discussion autour de CDAC se fait avec députés et maires et on est en train chaque fois de peser le pour et le contre. Les décisions sont parfois très difficiles à prendre. Et le troisième équilibre, le troisième niveau qui est fondamental, c'est l'équilibre entre les zones et le centre-ville.
Eh oui.
Bien sûr,
vous n'avez pas la même spécificité d'activité entre le centre-ville et la périphérie. Vous avez des activités qui effectivement gênent le centre-ville, d'autres qui gênent moins et d'autres qui ne gênent pas du tout le centre-ville. Donc il s'agit pour nous de piloter au plus fin pour développer les zones périphériques puisqu'il y a une demande et de manière à ne pas relancer l'évasion commerciale. Moi quand je vois sur Roques-sur-Garonne une grande enseigne avec 120 boutiques en galerie, avec Eden Park, avec Virgin, avec H&M, etc. On doit faire attention. On doit faire attention et notre job d'élu, c'est d'être responsable.
Faire attention à ce que ça ne se produise pas ici, c'est ça que vous voulez dire ?
Disons qu'à ne pas relancer les files de voitures sur l'autoroute entre Toulouse et Montauban et que les Montalbanais repartent faire les courses sur Toulouse. Mmh. Donc on doit avoir une offre commerciale sur Montauban qui ne sera pas identique, bien entendu, mais qui permette de garder l'attractivité commerciale du territoire sans gêner le cœur de ville. Donc c'est pour ça que les autorisations ont été données. Nous avons les enseignes à Montauban, les Auchan, les Leclerc, qui ont maintenant 40 ans pour l'une, 30 ans pour les autres, qui commencent à vieillir. Donc les enseignes qui sont parfaitement au cœur de ces problèmes, et avec lesquelles on discute régulièrement, assez souvent, ont à cœur de moderniser leurs outils. C'est ce qui se passe actuellement.
Bah,
Auchan va ouvrir au mois de septembre. Mmh. Et puis Leclerc Sapiac va refaire son nouveau magasin avant le début de l'été. Et certainement, et évidemment, les autres vont suivre également dans leur modernisation, dans leur évolution, avec peut-être aussi un côté esthétique plus préservé. On est loin maintenant des cubes en béton que l'on connaissait dans les années 70 et 80. on évolue, parking arboré, etc., etc. Donc, il y a cette problématique-là, et on conserve quand même une maîtrise vis-à-vis aussi des permis de construire. Et la loi de modernisation de l'économie, qui effectivement abaisse le seuil, ou augmente le seuil plutôt, à 1000 mètres carrés, au lieu de 300 mètres carrés précédemment, peut engendrer effectivement parfois des déconvenues ou des déséquilibres, mais on est toujours au cœur des discussions avec les enseignes. Et croyez-moi, en CDAC, en commission départementale d'aménagement commercial, on est loin de dire oui régulièrement, et beaucoup de dossiers qui sont soldés par un avis négatif sont retirés avant d'arriver en commission départementale d'aménagement commercial. Donc on est en permanence en souci de préserver ces équilibres tout en modernisant les outils de production.
Oui, ces moyennes surfaces inférieures ou égales à 1000 mètres carrés qui s'installent en ville n'ont plus à vous demander l'autorisation de s'installer aujourd'hui.
Écoutez, alors, des moyennes surfaces de 1000 mètres carrés qui s'installent en cœur de ville, je n'en connais pas. Puisqu'on a des problèmes de disponibilité foncière, en périphérie, en dessous de 1000 mètres carrés, aujourd'hui, vous n'avez qu'une obligation, c'est le permis de construire.
Oui, on voit les recommandes.
Et l'observation des règles d'urbanisme, en termes de places de parking, etc., etc.
Les cinq grands de la distribution ont tous créé maintenant un proxy market pour Carrefour. Bon, il y avait déjà les supérettes casinos qui existaient depuis longtemps. Intermarché.
Là, on est sur des surfaces de 200 mètres carrés, 270 mètres carrés pour celles que vous évoquez.
Qui vont faire de l'alimentaire.
Mais on est aussi sur un phénomène de société, et on voit ça dans les grandes villes. On est aussi sur un phénomène de société où de plus en plus vous avez une épicerie dans chaque grande rue, quasiment. On revient un peu en arrière par rapport à ce qui se faisait il y a 25 ans, 30 ans, avec de nouveau un embellissement du commerce de proximité avec ces enseignes que vous citiez. De ce point de vue-là, je ne pense pas qu'on soit en danger et que ce soit une mauvaise évolution. Le fait d'avoir des épiceries de quartier en centre-ville me paraît être une bonne chose.
Oui, mais ils vont venir concurrencer de plein fouet nos commerçants de bouche. Parce qu'ils vendent souvent, c'est quand même la nourriture, le principal secteur d'activité sur lequel ils interviennent. Alors, nos pâtissiers, nos bouchers, nos charcutiers, nos boulangers, demain ne vont-ils pas...
Les enseignes que vous évoquez ne sont pas forcément réputées pour offrir de la viande de qualité, du pain de qualité, des gâteaux de qualité, etc., etc.
Je pense que
la spécificité du centre-ville aujourd'hui, c'est d'avoir justement du conseil et un produit de qualité, notamment dans les métiers de bouche et de restauration que vous évoquez. Et je pense que, ils n'ont pas de danger à craindre de la mise en place de supérettes. Au contraire, l'arrivée de supérettes freinera peut-être l'évasion commerciale du cœur de ville vers la périphérie et permettra aux métiers de bouche du centre-ville de subsister plus facilement. Parce que la tentation jusqu'à présent, et même les personnes âgées avec la famille ou avec les transports en commun, étaient obligées, en l'absence d'offres en centre-ville, de partir en périphérie. Et là, quelque part, vous avez la facilité de faire la globalité de vos achats pour la semaine en périphérie. Donc ça va permettre aussi un petit peu de rééquilibrer vis-à-vis du centre-ville et de permettre au métier de bouche que vous évoquez de se développer.
Le monde attire le monde.
Bien sûr.
Nous le souhaitons.
On arrive au terme de cette émission. Je vais commencer par vous demander, José Zurlot, puisque c'est vous qui êtes l'adhérent de la CGPME du mois, de me dire si vous êtes un peu satisfait de cette rencontre avec Patrice Alozzi et de ces quelques échanges qui se sont faits pendant cette émission.
Oui, cette émission a été très agréable. Patrice Alozzi nous a renseigné, nous a donné réponse aux questions, pas toutes les questions que se posent, mais quelques réponses.
Moi, j'ai pas eu les chiffres.
Satisfaisantes. Il n'a pas eu les chiffres. C'est pas grave. Et j'aurais une dernière question, la toute dernière. La mairie avait un projet de zone écologique,
Albanor.
Albanor. Où en est le projet?
Non, mais c'est une zone dont l'inspiration était dédiée à l'artisanat, préservation de l'environnement, etc. Aujourd'hui, on s'interroge puisque le LGV va arriver sur la zone sud.
LGV, la ligne à grande vitesse,
et la gare TGV va arriver sur la zone sud. Donc, avec une zone d'activité qu'il faudra aménager autour de la gare. Et deuxièmement, il s'agit aussi de respecter, et ça c'est une donnée que vous connaissez et que vous pratiquez tous les jours, de respecter le marché. Donc, faut faire attention à avoir une zone qui soit aussi syntone et en cohérence avec les prix du marché. On ne peut pas faire non plus une zone pour se faire plaisir et qui serait trop décalée par rapport au prix du marché. Donc, nous sommes toujours en réflexion par rapport à Albanor sur notamment l'offre qui pourrait être proposée aux investisseurs. C'est une idée qui suit son chemin. Écopôle, effectivement, préservation de l'environnement, normes HQE, évidemment, etc., etc. L'idée n'est pas abandonnée, mais fait toujours partie de nos champs de réflexion aujourd'hui.
Gérard Ramon.
Oui, alors voilà, ce que je voulais dire, moi, simplement, c'est que, bon, d'abord, c'est normal, vous me direz, mais je constate quand même que Patrice Allozy connaît ses dossiers. C'est quand même fait plaisir de voir qu'il a répondu à tous les questions. Ah non, mais il faut le dire, moi, vous me connaissez, qui n'est pas habitué de passer la brosse. Non, il connaît ses dossiers. Deuxièmement, ce que je voudrais
Patrice
dire,
Allozy est en train de sortir 20 euros.
Ce qui ressort de la discussion que nous avons eue, c'est qu'il fait de la prospective. Hein, il fait de la prospective, il se projette vers l'avenir. C'est important, je regrette. Que Patrice Allozy n'ait pas cru devoir nous parler de la commission économie CMTR qu'il a initiée, auquel nous sommes conviés, parce que c'est montré effectivement que non seulement il se préoccupe de la ville de Montauban et de l'agglomération, mais qu'il va bien au-delà pour le département, puisqu'il se préoccupe des chances qu'il pourrait y avoir avec cette mégapole, mais cette grande ville qui est Toulouse et son environnement. Moi, ce que je voulais dire, moi, je voudrais profiter aussi pour dire, en déterminer, que le 5 mai prochain, à la Bège, donc la CGPME, toujours dans le cadre de la CGPME au cœur des débats, organise une grande manifestation qui est, si la CGPME ne le dit pas, qui le dira? Donc toujours dans la même veine, n'est-ce pas, pour expliquer qu'aujourd'hui, ben, ce qui peut faire avancer les choses, c'est peut-être le politiquement incorrect et le devoir d'insolence, et que nous avons comme invité, bien sûr, vous serez invité vous aussi, comme invité nous avons donc Claude Allègre, n'est-ce pas, pour son imposture climatique entre autres, et puis Luc Ferry. Donc je crois que le débat sera extrêmement intéressant, et puis ce que je peux dire déjà aux auditeurs, c'est que s'ils viennent, ils auront au moins une fois dans leur vie la possibilité de voir que la Confédération Générale des Cadres est la première à ne pas pratiquer la langue de bois.
Patrice Allozy, je vous laisse le mot de la fin.
Merci. Mais écoutez, d'abord, les travaux de la commission économie, nous aurons l'occasion d'en reparler. Elle travaille sous l'égide de Brigitte Barège et rassemble aujourd'hui plus de 100 partenaires pour un travail sur la stratégie économique du territoire qui devrait intervenir au mois de septembre. Moi, je voudrais remercier Gérard Ramon, la CGPME et toute l'équipe de m'avoir invité. On est toujours nous friands de pouvoir communiquer et d'expliquer un petit peu la teneur et les composantes des dossiers. Donc merci à CFM Radio et merci à la CGPME. C'était très très agréable.
Merci à vous. Pour finir, l'agenda de la CGPME, Xavier Reynich.
Oui, deux dates dans l'agenda très prochainement. Donc jeudi 15 avril, réunion mensuelle à laquelle bien sûr sont conviés tous nos adhérents actuels ou futurs adhérents. Toujours au siège de la CGPME au 13 Allée Mortarieux. Et lundi 19 avril 2010, toujours dans nos locaux, à partir de 9h, une formation portant sur le thème « La responsabilité pénale du chef d'entreprise », un sujet d'actualité, puisque vous savez que la France, malheureusement, se distingue par une législation tout à fait contraignante et désuète à ce niveau-là. Et bien sûr, pour terminer, merci à M. Allozy de sa présence, merci à CFM, et au revoir à tous. Et la Poste, bien entendu, qui est notre partenaire, que je l'ai oublié. Pardon, Aurélie.
Voilà, c'était la CGPME au cœur des débats, en partenariat avec La Poste, avec Xavier Reynich, Gérard Ramon, José Zurlot, Michel Montmaillot et Patrice Allozy.
La CGPME au cœur des débats, en partenariat avec La Poste. La CGPME au cœur des débats, une émission de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, réalisée sur CFM Radio, animé par Rémi Toroella.